Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Et oui, on va parler de la voiture autonome, j'allais dire un vieux serpent de mer. Mais visiblement, ça commence à décoller, hein, les véhicules autonomes. Regardez ce qui se passe du côté des États-Unis avec Waymo, hein, puisque à San Francisco, malgré tous les petits problèmes qu'il y a eu, ça commence vraiment à bien marcher. On va en parler avec nos deux invités. Philippe Bonifay est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'unité de recherche EDIASIC UTC au CNRS et vous allez nous parler du consortium Erasmo qui a dévoilé il y a quelques jours maintenant, il y a deux jours je crois, sa solution embarquée de localisation pour de la conduite autonome. Vous allez tout nous expliquer dans une minute. Et Bruno Mendes da Silva est avec nous. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Alors vous étiez venu nous voir il y a quelques mois de cela.
Ouais.
Et on va revenir sur X. Vous aviez levé pas mal d'argent en fin d'année dernière, 6 millions, je crois.
C'est ça, exactement.
Et évidemment, vous êtes dans ce domaine de tout ce qui est, on va dire, le fait de digérer de la data pour que, effectivement, on puisse avoir des véhicules autonomes qui marchent encore mieux, mais pas que les véhicules autonomes. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes sur plusieurs segments. Philippe, expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce fameux consortium Erasmo et ce que vous avez présenté il y a deux jours.
Oui, je vais le faire. Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation.
Avec plaisir.
Alors, le consortium Erasmo, c'était un consortium qui a été financé dans le cadre d'un projet européen, donc financé par l'agence ESPA, qui s'occupe des programmes aérospatiaux, qui en fait est en charge du programme Galileo.
Donc ces satellites, ce super GPS européen.
Voilà, ce GNSS, comme on dit plutôt maintenant, c'est le terme consacré, qui est un système de navigation européen et complètement civil au passage. Hein, c'est d'ailleurs le seul sur le marché de ce domaine. Et donc pendant 3 ans, on a développé tout un système avec plusieurs partenaires, dont Renault, puisqu'on est partenaire de Renault dans mon laboratoire. On a un laboratoire commun qui s'appelle Civalab avec Renault, donc on est déjà en fort partenariat, et puis des équipementiers et des petites entreprises belges, plutôt high-tech ou allemandes, une start-up allemande. Et donc on a développé une solution hardware, donc un boîtier, on appelle ça un OBU, qui intègre donc un calculateur, une puce tout à fait moderne, multifréquence, multiconstellation, qui permet de recevoir ces fameux signaux Galileo, ouais. Et puis tout un ensemble de capteurs embarqués sur le véhicule pour obtenir une solution de localisation, de positionnement qui soit très précise et extrêmement fiable, en fait. C'était un des enjeux. Et donc, la semaine dernière, on a dévoilé cette solution, là, et on a fait des démonstrations donc à Compiègne, à l'UTC, de cette solution. Et notamment, on a démontré sur une piste fermée une navigation autonome avec ce boîtier développé.
Passionnant, hyper intéressant, mais des véhicules autonomes qui roulent tout seuls, ça existe depuis longtemps.
Oui,
d'accord.
Ça existe.
Quelle est votre particularité? Pourquoi êtes-vous si fier en fait de la démo que vous avez faite il y a deux jours? C'est parce que vous êtes encore plus précis que ce qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas ce que l'état de l'art peut faire.
Où on est très fier, c'est qu'on a adopté une approche absolument globale qui va permettre donc en combinant donc du signal Galileo, du système Galileo, des capteurs embarqués, des caméras, des lidars sur la voiture, des centrales inertielles, mais aussi des cartes haute définition, et ça c'est une clé de notre système, puisque les véhicules autonomes utilisent des cartes en fait. Et là où notre solution est particulièrement intéressante, c'est que tous les véhicules dont vous parliez de Waymo à l'instant, il y en a tous les autres, c'est le même système.
On peut parler Tesla aussi, hein, qui est très avancé.
Alors Tesla est assez avancé avec un autre paradigme, mais en fait, ces véhicules-là, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin de rouler dans une ville comme San Francisco, par exemple, et ils enregistrent beaucoup de données, ils cartographient l'environnement, et après seulement, on peut les déployer. Nous, notre solution, où elle est très originale, c'est que on peut arriver avec un véhicule dans une...
Qui ne connaît pas le coin.
Qui ne connaît pas le coin.
Mais il va se débrouiller.
Il va télécharger une carte. Une carte particulière, qui est d'une technologie tout à fait particulière, qui va lui permettre de combiner son système Galileo, qui, comme tout système de radio-navigation, va être sensible à des masquages, à des bâtiments, à des ponts, à des tunnels.
Oui, parce que ça vient, évidemment, c'est du satellite, donc il y a des endroits où ça passe pas bien.
Donc, il va pouvoir détecter dans la carte un ensemble de caractéristiques, et cette carte, il arrive dans une zone qu'il ne connaît pas. Et donc, mais cette fonctionnalité est immédiatement disponible. Et ça, c'est une clé de cette... C'est vraiment une innovation clé de cette technologie-là.
Et donc là, vous avez testé tout cela il y a quelques jours.
Alors, ça a marché ? Alors, c'était un grand travail, puisque c'est un projet de 3 ans. Donc, il y a eu toute une phase de développement du hardware. Oui. Et puis après, une phase d'enregistrement. Donc, on a utilisé 2 véhicules. On a utilisé un véhicule qui a enregistré pendant à peu près 1 année des données dans la ville de Compiègne. On a défini un parcours avec des endroits très compliqués, avec des passages sous des ponts, ce qu'on appelle des canyons urbains. Et on a, grâce à ces données, mis au point tout un logiciel embarqué, temps réel, qui, grâce à ça, permet d'avoir une localisation assez précise. Alors, on est à 10 cm, ce n'est pas la meilleure solution, mais la technologie est totalement innovante et elle repose pas sur du différentiel classique, c'est un peu technique ce que je dis, mais sur l'utilisation de plein de stations au sol qui vont permettre de construire des corrections. Par exemple, quelque chose d'étonnant, grâce à ces corrections, on peut compenser les marées terrestres. Effectivement, la Terre se déforme, ouais. Et ça induit des...
Mais ces capteurs sont où, en fait ?
C'est des antennes de récepteurs GNSS qui sont positionnées.
Ok, et qui d'accord, sont mais qui sont réseau. Déjà là, en fait.
Qui sont déjà là.
Donc ça ne nécessite pas de nouveaux investissements. Dernière question subsidiaire. Oui. Est-ce que les constructeurs, vous disiez que Renault travaille avec vous,
oui.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette technologie, demain, qui est française, ouais. Puisse, européenne,
oui, européenne, précisément, très exactement.
Arrive dans des véhicules et soit utilisée par le plus grand nombre.
Alors bon, là je ne vais pas m'exprimer à la place de Renault, donc je sais que Renault était intéressé par la solution, il était partenaire du projet, mais ça va encore nécessiter des développements, ces genres de technologies, pour en particulier, parce que c'est très très innovant, les algorithmes qui sont utilisés sont vraiment tout neufs, ils s'améliorent sans cesse,
d'accord.
Et ces fameuses cartes aussi sont nécessaires pour déployer cette technologie.
Vous restez avec nous, Philippe.
Oui.
On va écouter
sûr.
Maintenant Bruno Mendes da Silva. Je suis persuadé que ce qu'il va raconter va vous intéresser. Peut-être que ouais. Vous le connaissez, hein, puisque
non, on s'est rencontrés à l'instant.
On voilà. S'est rencontrés à l'instant, mais apparemment, il connaît notre CTO.
Oui.
Avec qui ils se sont croisés, parce que notre CTO Arnaud de la Fortelle était à l'école des mines. Avant d'être chez X Technologies.
Voilà, X-H-E-E-X, voilà. Vous aidez en fait vos clients à récupérer de la donnée pertinente et directement exploitable. On est sur le même segment, hein, finalement. Alors vous êtes plus peut-être dans le deep learning, j'ai envie de dire. Expliquez-nous ce que vous faites chez X.
Alors chez X, c'est une plateforme logicielle qui aide les entreprises à développer des systèmes autonomes en s'appuyant uniquement sur les données
pertinentes. Ne touchez pas le micro parce qu'on vous entend, ça fait cric, cric, cric.
Pardon, voilà, pardon.
C'est comme ça. Bon élève, tout droit,
voilà.
Nickel.
C'est un exemple tout simple. En fait, plus vous, comme l'a dit Philippe, plus vous collectez des données, plus vous roulez, plus vous collectez des données, plus vous apprenez. Et en fait, à un certain moment, vous arrivez à un plateau où vous avez besoin d'apprendre sur des situations bien spécifiques, mm-hmm. Qu'on appelle en anglais les edge case, parce que vous allez arriver à 99% et les 1% de situations les plus délicates, c'est ces situations-là qui peuvent potentiellement nuire à votre système. Et nous, on a développé toute une solution qui permet de paramétrer des enregistrements de données qui peuvent pallier justement à ces 1% de données dont on peut avoir besoin pour améliorer le véhicule et le rendre opérationnel.
Donc, effectivement, tout à l'heure, Philippe parlait de LIDAR, vous aussi, mm-hmm. C'est ça ? Donc, vous récoltez toutes ces données, c'est ça ?
Ouais, on récolte. En fait, on va permettre aux développeurs qui créent le système autonome,
ouais.
De pouvoir définir des paramètres pour pouvoir collecter des données bien ciblées. Par exemple, vous allez rouler, vous allez collecter des données sur tout un environnement, mais par exemple, vous voulez entraîner votre algorithme sur des données bien spécifiques, des piétons, des cyclistes, des panneaux de signalisation. Donc vous allez vouloir définir des paramètres bien précis pour pouvoir collecter des données uniquement sur ces éléments-là pour pouvoir améliorer derrière vos algorithmes. Mais pour revenir sur ce que Philippe disait, un véhicule autonome, ça a vraiment besoin de connaître son environnement. Par exemple, aux États-Unis, ils vont définir ce qu'on appelle des ODD, des Operational Design Domain, c'est-à-dire une carte où en fait ils vont vouloir être opérationnel.
D'accord.
Donc ils vont dire sur cette zone-là, on va collecter toutes les données. Ensuite, on va faire des tests dessus. Et c'est sur cette zone-là que le véhicule va fonctionner. Une fois que vous sortez de cette zone-là, bah, le véhicule, il va avoir beaucoup plus de mal à opérer.
Oui, parce qu'il n'aura pas toute la data, en fait.
Il n'aura pas appris de toutes ces situations-là. Mais ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est ce qui arrive notamment aux acteurs américains, c'est que si vous apprenez sur une zone et qu'ensuite cette zone, elle change, parce qu'on change la signalisation, qu'on change la chaussée, on fait des travaux, en fait, vous avez appris sur une route, mais cette route-là, elle a changé. Mm-hmm. Donc, en fait, quand vous allez repasser avec les mêmes algorithmes, la même connaissance, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes résultats. Donc, c'est ça qui fait que, pour pouvoir vraiment créer, en fait, enfin, rendre possible le mythe du véhicule autonome en tout temps, en toutes circonstances, bah, il faut de la coopération entre les personnes qui développent les technologies, entre les villes, entre les personnes qui font les routes, qui font les travaux, etc. Parce que, par exemple, comme Apple l'a fait, j'ai 10 milliards à mettre sur la table, je prends des véhicules, je les fais rouler, mais quand la chaussée change, qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais, c'est ça. Ces données deviennent obsolètes.
Et voilà. Et du coup, si vous faites ça de manière, on va dire, unilatérale, parce que vous pensez que vous avez toute la force du monde, bah, à un moment donné, vous avez un énorme écueil d'être bloqué par rapport à ce type de situation-là. Donc, c'est vraiment important, et c'est ce qu'on arrive à faire aussi en France, les consortiums, les coopérations, où en fait, on va faire réussir à travailler le privé, le public, l'universitaire, etc. etc. Donc, je pense que on n'a pas la force du financement que les Américains ont, mais on a peut-être une méthode qui, sur le long terme, va peut-être plus fonctionner que simplement mettre des coups de billets, parce qu'on voit qu'avec Apple ou Cruise, ça fonctionne pas forcément.
Et encore, Apple a décidé d'arrêter son projet en plus.
Exactement. En fait, 10 ans, 10 milliards. Ouais. Cruise, c'est aussi 10 ans, presque 10 milliards. Ouais. Et 20 milliards pour une centaine de véhicules qui aujourd'hui n'ont pas fait leurs preuves.
Et dont les données sont obsolètes.
Aujourd'hui, enfin, les données de 2018, de 2020, aujourd'hui,
ils sont obsolètes.
Qu'est-ce qu'on en fait? San Francisco, ça change.
Elles sont obsolètes aussi parce que les capteurs évoluent et ils changent. Ils sont de plus en plus précis. Il y a des nouvelles technologies de capteurs qui émergent sans cesse. Mm-hmm. Et donc, il faut aussi des données pour ces nouveaux capteurs. Et ce qui est intéressant, c'est le concept de, vous avez dit ODD, là, on a dit ça, en français, c'est le domaine de conception opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces technologies de systèmes autonomes, elles sont définies dans des conditions de fonctionnement. Alors, il y a la zone géographique qui est très importante, mais pas que. Il y a aussi les conditions météo, le fait que ça marche la nuit, le jour, et tout ça.
Et la circulation, j'imagine aussi.
La circulation, la vitesse à laquelle on peut rouler dans tels environnements. Et tout ça, c'est tout ce savoir-faire, il y a beaucoup de recherches actuellement dans ces domaines, et c'est en train d'un petit peu de se normaliser. Il commence à y avoir un peu des standards qui émergent, parce que c'est-à-dire que si on maîtrise pas ces environnements de fonctionnement, eh bien, on peut pas déployer des technologies autonomes, en fait.
Finalement, on a parlé de Cruise, Apple qui arrête aussi. Le grand gagnant, c'est Waymo et Tesla. Ouais. En matière de véhicules autonomes, on est d'accord ?
Waymo, je pense que la grosse différence qu'ils ont eue avec Cruise, par exemple, c'est qu'ils ont créé tout un écosystème. C'est-à-dire que Cruise, ils ont voulu faire une intégration complète de toute la chaîne de valeur. Ouais. Ils ont voulu faire la voiture, l'application, l'expérience du passager, etc. Moi, j'ai une anecdote d'une personne qui travaillait chez Cruise qui m'a dit qu'ils avaient une équipe qui travaillait sur les appuis-têtes. C'est-à-dire que avec tous les problèmes qu'ils ont, avoir pour pouvoir faire en sorte qu'un véhicule roule, ils se pensaient sur des détails qu'ils auraient pu acheter chez un équipementier de rang 1 qui fait ça depuis.
Qui n'était pas prioritaire.
Et c'est ce qui fait que ça change le focus. Mais par contre, Waymo, eux, ils ont créé tout un écosystème. Par exemple, sur l'application, ils se sont mis en partenariat avec Uber. Mmh. Sur d'autres éléments, ils ont créé des partenariats. Et je pense que,
plus agile.
En tout cas, d'un point de vue business model, c'est beaucoup plus viable de se concentrer, en tout cas, sur ce pourquoi, en fait, on a créé l'entreprise, plutôt que vouloir tout faire parce qu'on a de l'argent et à in fine se faire retirer le permis parce qu'on a fait des bêtises. Donc donc je pense qu'il y a une vraie différence d'approche, de méthode, et que c'est pas avoir du financement, ça suffit pas.
Ouais. Et en tout cas, Waymo est en train de réussir son pari, hein, à San Francisco, visiblement.
Ouais, ils sont en train de réussir.
C'est des robotaxis.
C'est vraiment
en
cette
10 secondes.
Démarche de robotaxi, mais le véhicule autonome, c'est pas que le robotaxi.
Non,
hein.
C'est clair.
C'est le véhicule à usage privatif, c'est-à-dire l'automobile. L'automobile va avoir de plus en plus d'aide à la conduite. Et en fait, ça, c'est un domaine d'application des systèmes autonomes. Et puis, il y a toutes les navettes. On n'a pas parlé de Zoox aussi, hein, qui développe des navettes. Et il pourrait y avoir plein de retombées, même dans le train autonome. Ça peut aller jusque-là, en fait.
Ouais. Top. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. On aurait pu rester encore une vingtaine de minutes ensemble pour évoquer ce sujet vraiment très intéressant. Merci à Philippe Bonifay.
Merci beaucoup.
Directeur de l'unité de recherche Eudiasi, QTC, au CNRS. Et donc, vous nous avez expliqué ce consortium Erasmo. Et merci à Bruno Mendes da Silva, cofondateur de X. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co, Bruno.